Chapitre 5. L'affirmation de l'État dans le Royaume de France. Cours 1. L'affirmation de l'État à la Renaissance. 1515-1559. Comment la Renaissance est-elle un premier moment d'affirmation de l'autorité royale et de construction de l'État en France? A. Une nouvelle image du pouvoir royal. 1. Une nouvelle manière de penser le pouvoir. Sous les règnes de François Ier, 1515-1547, et d'Henri II, 1547-1559, apparaît une nouvelle conception du pouvoir du roi. Alors que les théories médiévales lui imposaient le respect des coutumes et des privilèges, des théoriciens comme Guillaume Budé affirment que le roi est souverain et tient son pouvoir de Dieu. Il n'est donc pas tenu par ses usages anciens. 2. De nouveaux rituels. Aux rituels anciens, comme le sacre, hérité du Moyen-Âge, s'ajoutent de nouveaux rituels qui expliquent une haute conception du pouvoir royal. Lors de la joyeuse entrée, le roi est accueilli fastueusement par les habitants de la ville dans laquelle il entre. 3. Une politique de prestige. Les rois adoptent également le modèle italien du prince mécène, protecteur des artistes et des penseurs qui, en retour, doivent contribuer à sa gloire. François Ier fait ainsi venir d'Italie de nombreux artistes comme Léonard de Vinci ou les peintres qui décorent Fontainebleau. Il fait également construire de somptueux châteaux comme celui de Chambord à l'image de son pouvoir. B. L'incontestable renforcement de la monarchie. 1. Un royaume unifié et mieux administré. Les premiers Valois parviennent à davantage unifier leur royaume où subsistent des fiefs tenus par de grandes familles nobles. Un certain nombre d'entre eux sont intégrés au domaine royal. Les rois engagent également des réformes pour mieux administrer leur territoire. Ils se dotent d'un embryon de gouvernement confié à des secrétaires d'État. Ils envoient dans les provinces des maîtres des requêtes chargés de missions ponctuelles comme la levée des impôts. Ils prennent enfin des ordonnances importantes comme celle de Villers-Cotterêts, 1539, destinée à améliorer le fonctionnement de la justice royale et à imposer l'usage du français dans l'administration. Ces réformes ont pour conséquence l'augmentation du nombre des offices et des officiers. Elles contribuent aussi au renforcement de l'emprise du roi sur les membres de la noblesse appelés à participer à la gestion de l'État, par exemple comme gouverneur des provinces. 2. La guerre et le pouvoir des rois. La guerre est aussi un moyen pour les rois d'affirmer leur autorité. François Ier et Henri II sont engagés dans les guerres d'Italie dont ils disputent le contrôle à Charles Quint. Ces guerres incessantes contribuent au renforcement de leurs moyens d'action car elles nécessitent une augmentation de la fiscalité. Ainsi, un impôt direct, comme la taille, connaît une hausse importante tandis que certaines régions perdent d'anciens privilèges fiscaux, notamment pour le paiement de la gabelle, impôt sur le sel. Les guerres permettent également au roi de mieux contrôler la noblesse qu'il mobilise pour ses combats lointains. Ils apparaissent ainsi comme des modèles de rois chevaliers, ce qui renforce leur prestige. C. Les limites de l'autorité royale. 1. Des limites juridiques. Le pouvoir des rois est limité par les lois fondamentales du royaume qui les empêchent de céder une parcelle du territoire du royaume et les obligent à le transmettre à leur fils aîné. 2. Un territoire difficile à contrôler. L'autorité royale se heurte également à des limites techniques. Le mauvais état des routes, par exemple, ralentit la transmission des communications. Par ailleurs, les officiers ne sont pas assez nombreux en province pour être pleinement efficaces. 3. Des résistances. L'autorité du roi se heurte aussi à des contre-pouvoirs, notamment au Parlement. Ses cours de justice, qui jugent en son nom, enregistrent également ses édits et ordonnances et peuvent faire usage à ce moment d'un droit de remontrance, c'est-à-dire qu'elles peuvent suggérer au roi de modifier la loi, s'opposant ainsi à sa toute-puissance. Les réformes royales, notamment celles qui ont trait à la fiscalité, suscitent de vives résistances dans la population au nom du respect des coutumes et des privilèges antérieurs. Certains théoriciens relaient ces inquiétudes et se livrent parfois, comme la Boétie, dans le discours de la servitude volontaire, 1576, à une sévère critique de la tyrannie royale.